France Inter, le 18-20.
Dans un petit peu plus d'un mois, les élections européennes, le grand rendez-vous qui rassemble quelque 300 millions d'électeurs du vieux continent tous les 5 ans. Des élections européennes, oui, mais pourquoi faire au juste? Où en est ce projet européen, près de 70 ans après la création de ce qui ne s'appelait pas encore l'Union et qui ne concernait au début que le charbon et l'acier? Que nous proposent ceux qui rêvent de siéger à Bruxelles et à Strasbourg? Quelle est leur vision de l'Europe, leur récit, leurs envies? Ou pour dire les choses autrement, comme nos partenaires de Philosophie Magazine ce soir, ne serait-on pas tout simplement à la recherche de l'esprit européen? Si tant est qu'il y en ait un et un seul, c'est ce qu'on va tenter de voir ce soir. À l'heure où les Britanniques sont toujours sur le pas de la porte, ni dedans, ni dehors, on va se demander ce qui motive encore les défenseurs de l'Union face aux souverainistes, eux qui rêvent de se compter, non plus pour en sortir, mais pour remettre des barrières. 70 ans de PS vraiment suffisant pour motiver des citoyens désabusés face aux inégalités qui ne cessent de se creuser? Bref, le projet européen a-t-il encore un avenir? On en parle ce soir avec nos invités. Le politologue Christian Lequesne, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à Sciences Po, Paris, spécialiste des questions européennes et internationales. L'historienne Marion Gaillard, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste des relations franco-allemandes, on va dire ça. Et deux philosophes à nos côtés, Michael Fessel, spécialiste de philosophie politique et de philosophie allemande, qui restait à nos côtés. Rebonsoir, Michael Fessel. Et Alexandre Lacroix, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, qui est donc notre partenaire ce soir. Je précise que cette émission est le prélude à une semaine spéciale qui aura lieu la semaine prochaine. Tous les soirs sur France Inter, un thème bien précis concernant la politique européenne. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, pour ce qui est du projet global en Europe, c'est ce soir et c'est au 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et on va commencer comme d'habitude avec un premier appel au standard de France Inter. C'est Thomas qui est en ligne de Laval. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors, je me demandais comment la question du réchauffement climatique est abordée ou va être abordée à l'échelle de l'Union européenne. Est-ce que si avec les élections qui approchent à grands pas, c'est normal que l'aspect climatique reste globalement secondaire dans les programmes des candidats? Est-ce que des mesures concrètes sont en vogue grâce aux marches pour le climat? Est-ce que ces marches-là ont-elles été entendues?
Alors Thomas, je vais vous faire une petite confidence puisqu'on est entre nous. Il y aura donc la semaine prochaine des émissions spéciales et pour tout vous dire, la question de l'environnement sera très précisément abordée vendredi prochain. On pourra donc rentrer dans le détail des mesures, de tout ce qui concerne l'Union européenne et l'environnement. Mais vous avez raison de poser cette question ce soir parce que effectivement, plus globalement, on va se demander où en est le projet européen aujourd'hui et si par exemple la transition écologique peut être un nouvel horizon. Je ne sais pas qui souhaite commencer, Christian Lequesne peut-être.
Je pense que c'est inévitable et à mon avis, la jeune génération, je pense que Thomas appartient à cette jeune génération, attend beaucoup des avancées dans ce domaine et effectivement, comme la question du changement climatique, ce n'est pas une question qu'on règle derrière les frontières. Un élément que l'Europe doit inscrire à son agenda et qu'elle a inscrit à son agenda d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que la norme du changement climatique a été portée internationalement par l'Europe et on voit aujourd'hui encore que tous les États européens ont ratifié la Convention de Paris, ce qui n'est pas le cas des États-Unis d'Amérique. La Chine l'a ratifié mais fait beaucoup de résistance.
En tout cas, ça peut être un des sujets fédérateurs, Alexandre Lacroix. Vous qui avez posé la question de l'esprit européen dans le dernier numéro de Philosophie Magazine qui sera en kiosque lundi, est-ce que c'est une question effectivement qui peut fédérer?
Ah oui, je pense que si on compare en fait la culture américaine sur ce point ou la culture chinoise ou même ce qui se produit actuellement au Brésil avec Bolsonaro, on voit bien qu'en Europe, il y a une préoccupation assez forte pour les thématiques écologiques. En tout cas, il y a un courant, un mouvement dans l'opinion qui est favorable à une politique engagée sur le climat. Je dirais aussi que l'esprit européen, c'est un certain rapport à la nature, c'est-à-dire que les Européens ont avec eux une nature qui n'est pas une nature primaire, on n'a pas de forêt tropicale, on n'a pas la grande wilderness américaine, les grands espaces, mais on a autre chose, on a un jardin, c'est-à-dire que être un Européen, c'est vivre au milieu d'un jardin de collines, de bocages, de vignobles, de forêts qui sont elles-mêmes entretenues, cultivées, et donc c'est dans une nature assez civilisée que nous vivons, nous autres Européens, et la question, je dirais, de l'aménagement de la nature est très disons, présente dans les esprits des Européens qui tiennent à leur paysage.
Marion Gaillard, c'est particulièrement vrai quand on prend le cas de l'Allemagne, que vous connaissez
bien. Oui, tout à fait. Mais plus généralement, c'est vrai que je voudrais juste rassurer un petit peu Thomas, parce qu'on parle quand même beaucoup d'écologie. Je ne sais pas s'il a pu regarder le débat qui avait eu lieu entre les têtes de liste françaises, et c'est pareil en Allemagne, c'est pareil dans beaucoup de pays européens. L'écologie est très très présente dans tous les partis. En fait, si on prend la France Insoumise, la liste de Benoît Hamon, ou encore celle menée par Raphaël Glucksmann, mais même à droite, on
s'intéresse. C'est un petit peu plus vert que moi, tu meurs en ce moment.
C'est peu ça, c'est la course à l'échalote du vert. Donc finalement, c'est pris en compte. Et puis juste pour rappeler que l'Union européenne, effectivement, a déjà adopté 2 paquets énergie-climat en 2008 et en 2014 et qu'elle est toujours parmi les précurseurs au niveau mondial. Donc je crois que c'est quand même un sujet qui est porteur et qui peut faire partie de l'esprit européen, effectivement.
Pour l'avenir, oui. Michael Fossel, vous, je ne sais pas si c'est le sujet numéro un qui vous emballe, si ?
Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. C'est pas le sujet numéro un, mais disons que c'est le numéro 2, mais surtout le sujet numéro 1 étant plutôt la question sociale pour moi, mais enfin en tous les cas c'est un sujet qui est lié d'ailleurs, les deux sont liés. Non, simplement vous avez rappelé dans votre introduction que l'Europe, je veux dire la construction européenne, était née de l'acier et du charbon. Autrement dit, sur les questions évidemment écologiques, c'est plus qu'un tournant qu'il faut prendre par rapport à, disons, cette image quand même industrielle et productiviste qui était caractéristique des années 40 ou 50. Que ce soit au niveau... Parce qu'évidemment, s'il y a des réponses à apporter, elles se feront nécessairement au niveau international et donc par conséquent, pour ce qui nous concerne, peut-être en premier lieu au niveau européen. Mais il y a des habitudes de pensée, une course aussi à l'exploitation de la nature, dont l'idée s'est tout de même imposée en Europe, là dans l'Europe au sens où Alexandre Lacroix l'évoquait, c'est-à-dire quand même l'idée que nous devons domestiquer la nature. C'est l'idée européenne du 18e, du 17e siècle, évidemment, et en ce sens, moi je suis parfaitement conscient des mutations que l'écologie porte avec elle, parce qu'il faut aussi changer notre manière d'envisager la nature, non plus simplement d'ailleurs comme un environnement, mais comme un milieu dans lequel nous sommes partie prenante et qui se manifeste par sa fragilité.
On repart au Standard de France Inter, c'est Olivier cette fois-ci qui est au bout du fil. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Fabienne, bonsoir.
C'est clair le vendredi, mais c'est pas grave, je ne vous en veux pas, j'ai l'habitude. Allez Olivier, sans rancune, je vous écoute.
Ah, excusez-moi, oui, une mauvaise habitude. Ma réflexion était, est-ce que la solution, ça ne serait pas de réfléchir en tant qu'Européen ou de réfléchir en tant que membre d'une des nations qui constituent l'Europe ?
Bonne question. Excellente question à poser justement Christian Lequesne dans cette période électorale où on a quand même des débats franco-français d'un côté, très nationaux sur cette élection.
Oui, je pense que nous sommes tous des individus avec des identités multiples et nos identités politiques sont multiples aussi puisque nous sommes les citoyens de notre ville, nous sommes les citoyens de notre État, nous sommes les citoyens de l'Europe, voire pour certains d'entre eux, je pense qu'ils se pensent comme citoyens du monde. Donc je pense qu'il y a effectivement une capacité aujourd'hui chez les individus à pouvoir penser les problèmes de la société à échelle multiple. Et on peut penser un certain nombre de problèmes en se disant, là je les pense plutôt comme européen que comme citoyen simplement de mon État. Bon, si on prend l'immigration par exemple, ça me paraît absolument évident. Compte tenu des flux, c'est un problème qui doit être pensé de façon européenne. Hélas, dans la sphère politique, c'est souvent pensé de façon très nationale.
Très nationale.
Le changement climatique que nous avons évoqué, c'est exactement la même chose. Et je crois donc qu'effectivement, pour un certain nombre de problèmes, y compris des problèmes électoraux d'ailleurs, et je crois qu'un des enjeux de cette prochaine élection européenne, avec cette opposition qui se fait entre ceux qui veulent la continuité du projet d'Europe et ceux qui, au contraire, le récusent totalement, eh bien cet enjeu est européen. Et que je pense que pour peut-être une des premières fois, lorsque les citoyens iront voter, ils ne voteront pas simplement pour des raisons nationales. Ils voteront aussi parce qu'il y a cette structuration politique à l'échelle de l'Union.
Alexandre Lacroix, vous qui êtes parti à la recherche recherche de l'esprit européen dans votre dernier magazine.
Oui, c'est ça. Ce soir, je vais suivre un peu l'axe, si vous voulez, de notre dossier. En fait, c'était non pas de parler de l'Union européenne ou de la citoyenneté européenne, mais de l'Europe, plus en général, de l'esprit européen. Et si on pense aux incarnations de l'esprit européen, on s'aperçoit que lorsqu'on est un Européen, et quoi qu'on pense de l'Union européenne, il y a certaines choses, lorsqu'on voyage, qu'on va ailleurs dans le monde, qui nous manquent en fait. Il y a dans le paysage européen, dans les villes européennes, des modes de vie, une certaine, par exemple, liberté de parole. Nous ne sommes pas pris par le politiquement correct, nous ne vivons pas dans des régimes autoritaires. Il n'y a pas de torture, il n'y a pas de peine de mort.
Et puis, mais en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut partir pour s'en rendre compte, c'est ça ?
Bien sûr, mais les terrasses de café, par exemple. Je veux dire, des choses toutes bêtes, c'est-à-dire l'agrément qu'il y a à se trouver à Vienne, à Rome, à Paris, à la terrasse d'un café, là on est au printemps, vous voyez, il fait beau. La terrasse de café comme lieu de sociabilité, avec les jeux de séduction qui sont possibles, ça fait aussi partie de l'esprit européen, si vous voulez. On n'est pas du tout dans un système de caste, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'un certain jeu dans les rapports entre hommes et femmes, sans prédation, de jeux de séduction, de jeux de galanterie. Et donc, en fait, les cathédrales, je dirais que si on s'intéresse...
Bravo pour le dossier d'ailleurs que vous avez préparé, hein. Les questions des cathédrales.
Hein. Oui, bien sûr, on a mis en avant les cathédrales, et si je peux glisser une incise là-dessus, pourquoi c'est important les cathédrales ? Dans son cours monumental sur l'esthétique, Hegel nous dit qu'il y a trois réalisations architecturales majeures dans toute l'histoire de l'architecture. Il y a la pyramide des Égyptiens, et alors la pyramide c'est un gros symbole posé sur le sol, très ancré. Il y a le temple grec. Alors là, vous voyez déjà qu'entre, disons, la géométrie et la matière, c'est-à-dire c'est un bloc de matière, de marbre, mais avec des rectangles, des triangles. Bon. Et puis la cathédrale gothique, c'est le troisième grand élément. Et Hegel nous dit, voilà, ça c'est l'esprit même du romantisme, dit Hegel. C'est gothique, mais c'est romantique. Pourquoi ? Parce que ça témoigne d'un effort de la conscience pour dépasser ses limites, pour s'élever vers le ciel. Ça témoigne d'un effort de l'homme pour s'arracher à sa propre matérialité. Et en un sens, ça va beaucoup plus loin que la religion chrétienne elle-même.
Et donc, c'est très culturel, hein, tout ce que vous êtes en train de nous dire là.
Ben oui, parce que si vous voulez, on parle tout le temps de technocratie, de gestion, de réglementation. Et à force d'aborder l'Europe à travers ces questions, on rend le sujet ennuyeux, pénible. On fabrique de l'absentéisme, de l'abstentionnisme, j'ai fourché. Mais aux élections. Mais pourquoi ? Parce qu'on désincarne complètement le sujet dont on est en train de traiter. Parler de l'esprit européen, ce n'est pas parler d'une abstraction, c'est parler aussi de ces terrasses de café, de ces cathédrales, de ces choses.
Mais c'est peut-être là qu'il y a un malentendu entre ce qu'on est, ce qu'on cherche, ces racines que vous êtes en train de chercher, et puis l'histoire de la construction européenne qui ne correspond peut-être pas forcément tout à fait à ça, Marion Gaillard.
En fait, c'est pas forcément si éloigné que ça, parce que le projet européen en tant que construction européenne, il s'inscrit énormément dans l'histoire de l'Europe, à la fois dans son histoire lumineuse, j'allais dire. On parle toujours de la civilisation gréco-romaine, des universités au Moyen-Âge, des échanges culturels entre maîtres et élèves, etc., des lumières et tout ça. Mais c'est aussi la face sombre de l'histoire européenne, c'est-à-dire les guerres, l'inquisition, le colonialisme, évidemment les deux guerres mondiales et la Shoah. Et ça a beaucoup inspiré, en fait, le projet européen. Et Stéphane Hessel disait, l'Europe est née à Buchenwald, c'est pas pour rien, et c'est par le rejet, justement, de toute cette histoire sombre que le projet européen est né. Et donc ça, il faut aussi s'en souvenir. Voilà. Et puis, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire.
Non, c'était juste, signe de ne pas trop toucher le micro, parce que sinon, ça va faire beaucoup de bruit. Moi, j'ai quand même une question par rapport à ce que vous nous disiez, Alexandre Lacroix, à ses racines, on va dire, culturelles. Et puis le fait que cette construction européenne s'est élargie, est arrivée à 28, ce sera bientôt 27. Est-ce que on n'est pas allé trop loin dans cette... Est-ce qu'il y a pas une unité de façade par rapport à tout ça ? Je ne sais pas qui souhaite répondre, Marion Gaillard.
Oui, moi je veux bien poursuivre justement parce qu'on parlait des universités, des cathédrales, et ça c'est toute l'Europe, et l'Europe de l'Est appartient pleinement à cet esprit européen-là. Il y a eu des universités dans tous les pays d'Europe de l'Est, il y a eu des cathédrales et les cafés, les terrasses, vous parliez de Vienne, c'est la même chose à Prague ou à Vilnius, et donc il y a vraiment un esprit européen qui englobe les pays de l'Est, donc moi je revendique le fait que nous avons bien fait d'élargir, que ces pays appartiennent pleinement à l'Europe et qu'ils y ont toute leur place. Et même aujourd'hui, parce que on dit les populistes à l'Est, etc., mais les populistes à l'Est, certes, mais en Italie aussi, et Jean-Marie Le Pen était au second tour de l'élection présidentielle en 2002, bien avant l'arrivée de Orban au pouvoir, donc il n'y a pas cette dichotomie, je trouve.
Michael Fessel.
Je crois qu'il faut rappeler effectivement que l'espérance européenne, elle est née du désastre. Un philosophe, justement, Jan Patočka, un philosophe tchèque du XXe siècle, dont il est question dans le numéro de Philosophie Magazine, notait sur un mode évidemment un peu désespéré que l'Europe, la civilisation européenne, était morte dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Parce que l'Europe a été évidemment le lieu de l'universel, si l'on veut, mais ça a été lieu aussi de deux guerres mondiales. Paradoxalement d'ailleurs, enfin plutôt l'origine de deux guerres mondiales était des conflits inter-européens. Et ce qu'il y a évidemment de toujours précieux, aujourd'hui quand on dit l'Europe c'est la paix, on ne dit plus grand chose aux citoyens, parce que nous sommes habitués en quelque sorte à la paix, mais ce qu'il y avait de grand et de toujours valable, à mon avis, dans le projet européen, c'était justement, je veux dire celui qui est né après la Deuxième Guerre mondiale, c'était de répondre un peu à Patochka, si je puis dire, pour dire malgré les tranchées, malgré la Shoah, l'Europe peut se reconstituer. Ce que l'on peut tout de même noter, qui ne marque un peu la limite de ce projet aujourd'hui, à mon sens, hein, c'est que l'idée a tout de même été dominante à ce moment-là qu'elle se reconstruirait pacifiquement par l'économie. Et en particulier, vous l'avez dit, l'acier, le charbon, et puis ensuite toute une série de mesures qu'on connaît bien, les traités européens. Et le déficit politique de la construction européenne, aujourd'hui, nous apparaît, je pense, de manière plus criante. Il y avait quelque chose de, c'est pas mon option philosophique, mais il y avait quelque chose de respectable dans cette idée allemande, d'ailleurs, franco-allemande. Au fond, nous sommes fait la guerre pendant des siècles, nous allons essayer de reconstruire un marché, quoi. Bon, parce qu'il y a l'idée du doux commerce, comme disaient les libéraux. On substitue le commerce à la guerre. C'est tout à fait noble. Mais nous sommes à une période où aujourd'hui nous nous rendons compte sans doute que la concurrence, même fût-elle libre et non faussée, ne constitue pas toujours un principe de pacification sociale.
Et un horizon dont les gens rêvent forcément. Christian Lequen, et puis ensuite on repart au standard, parce qu'il y a quand même du monde ce soir, figurez-vous, qui a envie de nous parler de l'Union européenne et du projet européen.
D'abord, j'adhère tout à fait à ce qui a été dit sur le fait que les pays d'Europe centrale et orientale appartiennent totalement à l'espace culturel européen. Je voudrais rappeler d'ailleurs que en 1989, le slogan des dissidents, vous aviez cité Patochka, on pourrait citer Havel, on pourrait citer d'autres en Pologne, c'était le retour à l'Europe, mais à l'Europe de la civilisation. C'était cela, finalement, qu'ils portaient dans leur message. Mais je pense que on peut être européen, et c'est vrai qu'on se sent européen quand on est à l'extérieur du pays. J'ai passé 8 jours au Canada il y a quelque temps, dans une ville qui est une ville très nord-américaine, Toronto, et je me disais, je suis quand même dans un autre espace culturel. Alors que c'est pas une question que je me pose lorsque je suis à Munich, à Prague ou à Rome. J'ai l'impression d'être dans une ville européenne que je connais. Mais cet élément d'identité collective ne doit pas nous faire oublier que nous avons des différences et que ceci fait partie aussi complètement de notre identité européenne.
Chose promise, chose due, on repart au standard. Daniel nous appelle de l'Eure. Bonsoir Daniel, c'est à vous.
Bonsoir et merci pour votre appel. J'ai un simple témoignage que je voudrais porter. Je fais partie d'une génération de gamins qui, à l'âge de 12 ans, ont fait les premiers échanges interscolaires franco-allemands sous l'égide d'un professeur qui s'appelait Pierre Villain du lycée Voltaire de Paris et de certains de ses collègues allemands. Nous avions à l'époque le sentiment d'appartenir à une génération des nouveaux Européens. Nous rêvions d'une Europe, bien entendu, unie, fédérale, où chacun aurait conservé sa culture, parce que c'est une source de richesse inépuisable, pour en faire profiter ses voisins. Au lieu de ça, maintenant j'ai 74 ans, donc il s'est écoulé plus de 60 ans, force est de constater que les facteurs économiques l'ont totalement emporté et ont submergé cet idéalisme, bon, peut-être dû à notre grande jeunesse, mais il n'empêche que ces voyages d'échange ont perduré pendant au moins une quinzaine d'années après. Ils ont commencé 15 ans après la fin de la guerre, ce qui était à l'époque extrêmement courageux de la part des organisateurs, et ont laissé des traces indélébiles chacun d'entre nous, puisqu'il s'est créé des liens d'amitié vraiment indélébiles entre des familles allemandes, des familles françaises, ce qui aurait pu être le cas avec des familles d'autres nationalités, bien entendu. Voilà, donc mon propos, c'est pour quelles raisons les facteurs dits économiques ont-ils submergé à ce point l'idéologie d'une Europe culturelle et qui s'enrichit de ces cultures multiples?
Merci Daniel pour cette question essentielle. Hein, on va dire ça, Alexandre Lacroix.
Oui, c'est une question essentielle. On comprend bien à travers toutes ces interventions ce que vous venez de dire, monsieur, et puis ce qui s'est dit depuis le début autour de la table, que la raison d'être première de l'Union européenne a été la guerre et donc la volonté de pacification. Et de ce point de vue-là, la mission a été accomplie. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons vécu une longue période de paix, ce qui n'était quasiment jamais arrivé depuis le Moyen-Âge en Europe. Ça a marché. Et néanmoins, à travers cette paix, on doit rechercher une seconde raison d'être. Et si cette seconde raison d'être n'est que l'enrichissement matériel,
la
collaboration économique ou la guerre économique, eh bien c'est un peu triste. Et puis on parlait de la divergence de point de vue chez les populistes de l'Est notamment, et la déception qu'il y a à l'Est de l'Europe par rapport à l'Union européenne, qui est très vive, hein, et qui est à la hauteur des espoirs que les dissidents des ex-pays des démocraties populaires nourrissaient envers l'Ouest. Eh bien, nous avons interviewé par exemple Ivan Krastev, qui est un politologue bulgare, et qui dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit que ce que ne comprennent pas les gens à l'Ouest, c'est que à l'Est, on perçoit l'Union européenne comme quelque chose qui ressemble un peu au parti communiste centralisé. C'est-à-dire que la terreur, alors c'est sa thèse, mais la terreur qui anime les mouvements d'opinion à l'Est, dit-il, c'est de voir se reproduire une centralisation et une réglementation trop extrême, exactement comme en URSS, si vous voulez, toutes les républiques ont été vassalisées par Moscou.
Christian Lequen, juste sur cette question, ce que nous disait Daniel, le fait que lui, par exemple, est parti à l'âge de 12 ans avec cet échange franco-allemand, et aujourd'hui on se retrouve uniquement avec une libre concurrence, etc., des questions économiques, et on voit pas tellement le reste.
Oui, c'est pas complètement vrai. Je suis d'accord que la méthode que l'on a choisie pour essayer de faire l'intégration européenne était une méthode économique et reste très largement une méthode économique. Hein. D'ailleurs, on le voit bien quand il s'agit de la question du marché intérieur dans la négociation du Brexit, par exemple, les 27 là se mettent tous ensemble parce que il n'est pas question de toucher aux quatre libertés d'échange économique. Mais à côté
de ça, vous allez dire qu'à côté de la liberté des biens, il y a les gens.
Ce que décrivait ce monsieur, ces échanges scolaires continue, il y a les programmes de l'Office franco-allemand de la jeunesse, il y a
Erasmus.
Les étudiants Erasmus, il y a les mariages mixtes, ce sont autant de choses qui doivent être prises en compte quand on parle de l'Europe. Il y a 350 000 Français vraisemblablement aujourd'hui qui habitent à Londres. Londres est la 7e ville de France. Donc vous voyez, si je puis dire, mais c'est 350 000, c'est à peu près l'équivalent de la ville de Nantes. Donc je crois que il ne faut pas oublier aussi cette autre partie. Maintenant, la question, c'est de savoir si justement cette mobilité est élitaire ou pas. Vous voyez, et je crains que la réponse soit oui. Je vois
même Michael quand Fessel on pense aux travailleurs détachés.
Je vois Michael Fessel qui sourit, et c'est ça le problème.
Michael Fessel.
Oui, parce que le problème, c'est précisément que l'Europe ne soit ni identifiée à une technocratie ni à une abstraction, c'est-à-dire qu'elle devienne un lieu d'expérience. Et moi, bon, je m'excuse, je ne peux pas parler de l'Europe. Je parle de la construction européenne autrement que comme un amoureux déçu. Alors, je tiens aux deux, hein, l'amoureux et déçu. Amoureux, ça veut dire, par exemple, quand même une des invention prodigieuse, je trouve, de l'Union européenne, précisément, c'est d'avoir découplé, distingué nationalité et citoyenneté, puisque nous sommes citoyens européens, quelle que soit la nationalité à laquelle nous appartenons, et c'est ce qui se vérifie dans la facilité avec laquelle nous traversons les frontières européennes. Et donc, il y a une très belle idée, la cosmopolitique, si je puis dire, de dire, après tout, on peut être citoyen d'un État qui n'existe pas. Bon, mais amoureux déçu parce que d'abord l'Union européenne ne s'est pas inspirée de cette, je trouve, de cette inspiration pour le coup quand elle a abordé la question des migrants. Et puis, amoureux déçu aussi parce que, justement, je parlais tout à l'heure où je l'évoquais de la question sociale, il y a quand même un élément, à mon sens, qui a joué beaucoup dans la désaffection populaire à l'égard de l'Union européenne, il faut s'en souvenir, c'est l'événement grec. C'est-à-dire tout de même, malgré tout, le fait qu'on a là renoncé, quoi qu'on pense de la politique qui devait être menée en Grèce, hein, on a plus exactement d'ailleurs trahi le référendum et le vote des Grecs. Et donc, il y a une dimension autoritaire qui est apparue dans l'Union européenne. En France, il y a eu un écho, c'est que qu'on pense, moi personnellement, j'ai voté oui pour le référendum de 2005, mais enfin c'est le non qui l'a emporté, et bien qu'ayant voté oui, je regrette que, alors que le non l'emportait, c'est finalement le oui qui s'est imposé. Parce que simplement, ça crée de la défiance démocratique à un moment où il ne s'agit pas d'ailleurs de dire que c'est l'Union européenne qui est ici en cause, elle est constituée d'États hein, qui ont pris des mesures, mais en tout cas, je crois qu'il faut réfléchir à cette désaffection populaire populaire, l'abstention et le vote pour des partis eurosceptiques, comme on le dit, qui, à mon avis, s'explique par cette sensation, ce sentiment qui rejoint peut-être ce que disait Alexandre Lacroix, hein, quand on dit en Europe de l'Est, on a l'impression que l'Union européenne, c'est l'Union soviétique, ce qui est quand même assez drôle, compte tenu, disons, du caractère ordolibéral des textes. Mais enfin, ça veut dire le côté un peu autoritaire, on ne peut rien faire, c'est vécu comme comme une entrave.
C'est une rhétorique aussi, oui, des hommes politiques.
Oui, Marion Gaillard, vous qui êtes une spécialiste de la relation franco-allemande, un tout petit mot quand même à ce stade de l'émission, parce que c'est pas possible de ne pas parler de ce couple-là. Il bat un peu de l'aile quand même en ce moment.
Bah, il bat beaucoup de l'aile. Alors, il reste extrêmement présent dans les médias avec une mise en scène, mais en réalité, il n'y a pas d'accord, on le voit bien, sur énormément de points. On nous avait prédit une lune de miel ordo-libérale entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, et malgré leur convergence sur ce point, il n'y a pas de lune de miel parce que toutes les propositions que fait Emmanuel Macron ne trouvent pas réellement d'écho en Allemagne. C'est-à-dire qu'il est largement tout seul sur la question d'une réforme de la zone euro, dont on sait qu'elle est absolument nécessaire. On peut ne pas être d'accord avec tout ce que Macron propose, mais en tout cas, là-dessus, il faut clairement un gouvernement européen pour la zone euro, un budget européen qui soit justement un outil dans le cas d'une crise comme en Grèce, pour avoir un outil de politique conjoncturelle, etc. Il est très très seul aussi sur la taxation des GAFA, qui me semble essentiel aussi comme message envers les citoyens. Donc le couple franco-allemand, pour l'instant, il fonctionne pas très bien, et je pense qu'il est urgent de le contourner en sortant des petits arrangements intergouvernementaux pour passer par un soulèvement, si je puis dire, du Parlement européen.
Voilà. Suite au prochain épisode, aux prochaines élections. Cette fois, c'est Bernard qui est en ligne. Il appelle de Rouen. Bonsoir Bernard. Merci d'avoir patienté.
Oui, merci. Bonsoir à tous. Et merci de consacrer plusieurs émissions à l'Europe. Elle le mérite bien et c'est assez touffu et compliqué. Oui, ma question, et je pense qu'elle est sur deux niveaux, au niveau théorique et au niveau pratique, c'est sur l'enseignement et la connaissance que l'on donne de l'Europe aux enfants à tous les niveaux, que ce soit dans l'enseignement élémentaire, dans les collèges ou dans les lycées, ou la pratique que l'on peut faire de l'Europe auprès de ces jeunes, parce que sans cette connaissance, ni sans cette pratique, comment former des citoyens européens? Et moi-même, j'étais enseignant de langue, et donc à l'époque où j'enseignais, il y a quelques années, j'avais cru comprendre que l'Europe pouvait être effectivement dans les manuels, mais que ce n'était pas vraiment une matière d'examen, c'est-à-dire sur laquelle on allait interroger les élèves, que ce soit au brevet ou au bac, et que les profs, tellement surchargés de programmes très rigides et dont les matières sont prévues pour les examens, finalement, ils laissaient un peu de côté ceux qui n'étaient pas prioritaires dans leur programme surveillé par les inspecteurs. Et donc, l'Europe est souvent passée à côté. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais je crois que c'est tout à fait essentiel de pouvoir arriver à mettre cela à la fois dans la tête et dans la pratique, par une visite à Bruxelles ou dans les autres institutions, ou par la visite d'un eurodéputé dans toutes les classes, peut-être une fois, dans la scolarité des enfants, etc. etc. Voilà un peu ma question.
Excellente question, Bernard. Qui souhaite vous répondre, Christian Duquesne?
Oui, d'abord, je pense que la construction européenne fait partie du programme de terminale, et c'est une question qui peut être une question d'examen au baccalauréat. Alors bien sûr, les professeurs d'histoire et de géographie ont un programme très très chargé, donc ils ne peuvent pas passer trois mois sur cette question. Mais ce que disait monsieur sur la pratique me paraît extrêmement important. Et pour moi, la pratique, c'est pas simplement la pratique qui consiste à recevoir un homme politique du Parlement européen, c'est aussi les échanges scolaires, c'est le jumelage des collèges et des lycées avec d'autres collèges et lycées en Europe, ce que les professeurs notamment de langue font très très bien. Ça, à mon avis, c'est un point très très important.
Est-ce qu'il y a des pays qui le font mieux que nous? Pour dire les choses simplement.
Je pense qu'on n'est pas mauvais en France pour ces questions-là. Les Allemands sont très bons aussi, mais on voit des collèges et lycées de France quand même entretenir des relations régulières avec des collèges italiens, des collèges polonais même. J'ai quelques exemples. Et là, c'est tout de suite très important parce que lorsque les enfants rentrent justement de leur séjour en Pologne ou en Italie, ils se disent quand même qu'on a des points communs, quoi. En gros, les les conversations dans les familles, c'est pas très différent de celles qu'ils connaissent chez eux. Voilà. Et c'est, à mon avis, beaucoup plus important que d'inviter un parlementaire européen, même si j'ai beaucoup d'estime pour les parlementaires européens.
Alexandre Lacroix.
Oui, j'aurais souhaité ajouter que certes, on peut faire des cours sur l'histoire de la construction européenne ou sur les institutions européennes, mais en fait, dans l'enseignement, le défi pour l'école, pour la connaissance, c'est de préserver et de... Vous allez dire, c'est un plaidoyer pro domo, mais c'est l'enseignement de la philosophie qui singularise l'Europe. C'est l'enseignement de l'esprit critique. C'est très, très étonnant, cette affaire-là. En France, on a tendance à voir ça du point de vue un peu franco-français. On se flatte toujours d'avoir un enseignement de la philosophie qu'on croit unique. Mais pour avoir fait des enquêtes à plusieurs reprises là-dessus, à travers le Philosophie Magazine, on a contacté plusieurs ministères de l'éducation dans plusieurs pays. En fait, la dissertation est un exercice assez français. Elle est pratiquée au Portugal, par exemple. Mais l'enseignement de la philosophie, l'enseignement de l'esprit critique, c'est quelque chose de tout à fait singulier, qui n'existe pas. Alors en Angleterre, vous voyez, le Brexit philosophique a déjà eu lieu depuis longtemps, mais il y a dans la manière dont on aborde la connaissance en Europe, cette manière de cultiver la distance critique, l'autonomie du jugement de l'élève, qui est quelque chose de tout à fait singulier, différent de toutes les formes d'endoctrinement idéologique ou religieuse qu'on peut trouver un peu partout ailleurs dans le monde. Et ça remonte à très loin, ça remonte à la naissance même de la pédagogie, parce que Platon est à la fois le premier philosophe en un sens, mais il est aussi un fondateur d'école, et les grands philosophes grecs sont tous des fondateurs d'école. Donc on a une mission, si vous voulez, c'est de passer ce flambeau-là.
Alors, on vous accorde ça, Alexandre Lacroix. La philo, c'est très important pour comprendre la construction européenne. Mais sincèrement, l'histoire aussi, c'est important. Il y a des tas de matières importantes pour l'instruction civique aussi. Marion Gaillard, vous n'allez pas dire le contraire.
Non, pas du tout. Au contraire, effectivement. Et je plaide depuis des années pour une européanisation de la transmission des savoirs. C'est-à-dire pas seulement, effectivement, donner des cours sur l'existence de l'Union européenne, qui sont souvent assez rébarbatifs parce que très techniques, mais aussi simplement que l'Europe devienne l'horizon de nos chères petites têtes blondes ou brunes d'ailleurs, partout en Europe. Par exemple, quand on parle de Charlemagne, au lieu de dire l'empereur français, expliquer que pour les Allemands c'est un empereur allemand. Quand on parle du Rhin, expliquer que c'est un fleuve frontalier, etc. Enfin, il y a énormément de choses comme ça à faire. Peut-être afficher des cartes de l'Europe au lieu de cartes nationales dans les classes. Enfin, voilà. Que les enfants vivent l'Europe. Mais le problème, et ça revient à ce que disait Michael Fussell tout à l'heure, c'est que l'éducation ne fait pas partie des compétences primordiales de l'Union européenne, et l'Union européenne n'a pas la compétence de sa compétence. Elle ne peut pas décréter qu'elle est compétente en la matière. Et donc, chaque État garde cette prérogative des programmes et de l'éducation nationale pour lui, et même en Allemagne, les Länder, d'ailleurs. Et donc, on revient au fait qu'il y a un manque absolu d'Europe politique. Mais juste pour vous répondre, je le déplore aussi, mais on a fait l'Europe par l'économie parce qu'on s'est heurté au mur des souverainismes déjà dès le congrès de La Haye en 1948, et qu'on a fait l'Europe par l'économie faute de mieux et faute de pouvoir avancer. Et donc, tout amoureux de l'Europe, je crois, est forcément un amoureux déçu.
Et j'ajoute, parce que ça c'est Patrick Parmail qui nous dit, la responsabilité des politiciens dans la communication faussée sur l'Europe est à dénoncer également, il n'y a pas que des questions d'éducation. Comme promis, on repart au standard. Cette fois c'est Pierre, il nous appelle de Moirans, et Moirans c'est dans l'Isère. Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir. Oui, ben je suis très heureux que vous parliez d'esprit critique, parce que l'esprit critique nécessite que le vocabulaire soit exact. Or, vous nous parlez d'économie. L'Europe, aujourd'hui, malheureusement, n'est pas économique, elle est financière, ce qui est totalement différent. Ce sont des choses totalement différentes, et on ne peut pas faire une construction européenne des citoyens par la finance, on peut la faire par l'économie. Bien sûr, mais la finance, c'est tout autre chose. Et on trompe, je pense, les gens sont trompés par ce vocabulaire. Il est extrêmement important que les journalistes, que les économistes, s'il y en a, ils m'amusent beaucoup, souvent, puisqu'ils sont incapables d'expliquer pourquoi ce qu'ils ont dit hier s'est pas produit aujourd'hui. Et les gens sont en attente.
Gare au vocabulaire, Pierre, hein, c'est ça, vous avez raison.
Gare au vocabulaire.
La bah, finance...
Votre journaliste de la bourse, ce parallèle qui nous parle toujours d'investisseurs, non, c'est des spéculateurs, ça n'a rien à voir.
Merci Pierre, je vous presse un petit peu parce qu'il est déjà 55. Vous nous dites attention, il y a la finance, il y a aussi Adrien sur l'application France Inter qui nous parle d'une Europe trop libérale. Effectivement, on sent bien que cette question, elle est au cœur des réflexions. Comment on fait maintenant pour remettre remettre tout ça sur les rails? Est-ce qu'il faut redéfinir le projet politique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui veut répondre peut-être? Michel Fessel.
La première chose, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais la première chose qu'on va faire en France et dans toute l'Europe, c'est voter. Bon, donc par conséquent, il y a quand même encore moyen, je dirais, d'exprimer le fait que on n'est pas favorable. Plusieurs possibilités s'ouvrent d'ailleurs. Je ne vais pas évidemment ici les développer pour le montrer qu'on n'est pas favorable à cette financiarisation de l'économie qui est un phénomène mondial. Mais alors, évidemment, là où je, qui n'est pas propre à l'Europe, mais évidemment, là où on peut quand même faire une remarque concernant l'Europe, c'est que s'il y a quelque chose qui, je dirais, ne respecte pas les frontières ou n'a strictement rien à voir avec les limites nationales, c'est la finance, surtout quand elle est virtualisée ou quand elle est informatisée. Par conséquent, il y a cette idée que cette tentation de penser que c'est par des mécanismes ou financiers ou économiques, là je suis d'accord avec ce qu'a dit votre avec ce qu'a dit votre auditeur, simplement quand on dit économique aujourd'hui on veut dire capitalisme, hein, on ne peut plus dire autre chose. Bon, il y a cette tentation de penser que pour dépasser les frontières on peut s'appuyer sur ce qui les dépasse de facto, c'est-à-dire le marché. Cette tentation me paraît être politiquement douteuse du simple fait qu'elle provoque des réactions qui pour le coup sont des réactions très massivement hostiles à l'Europe.
Merci beaucoup Michel Fessel, il est déjà 56:30, donc on va faire un dernier tour de table sur ce qui vous paraît, vous, essentiel pour essayer de remettre cette union sur les rails, si tant est que ce soit possible. Christian Lequen, qu'est-ce que vous nous dites, vous? Écoutez, voter, oui, c'est ça,
certainement,
dans un mois, c'est déjà une partie de la solution.
Il faut aller voter, mais ça, je le dirais de manière générale, mais c'est vrai aussi pour ce qui concerne l'avenir de son État ou de sa ville. Non, je pense que ce qui est très important, c'est que nous avons tous une expérience de l'Europe à partir d'une échelle micro, hein, qui est notre qualité d'individu. Et il y a un moment où il faut que nous fassions l'exercice de nous replacer dans un contexte global. C'est-à-dire qu'il faut que nous voyions l'Europe à partir de sa globalité. Et deuxième chose, à partir de son histoire. Je pense très très important de ne jamais oublier de là où nous venons. Et ça implique aussi de prendre en compte la diversité de l'Europe. Il y avait un très bon papier d'historien dans Le Monde ce soir.
Une centaine d'historiens qui appellent à redéfinir les choses.
Qui disaient, n'oublions pas nos différences dans l'histoire. Et je crois que c'est un point très important. Donc on doit faire cet exercice chacun d'essayer de replacer l'Europe dans sa globalité.
Marion Gaillard,
secondes. Je ne veux pas exonérer l'Union européenne de ses défauts, mais il faut dire qu'on a l'Union européenne qu'on mérite. Parce que l'Union européenne, ce sont nos gouvernements réunis en Conseil des ministres et les parlementaires que nous élisons. Et donc, nous avons dans nos mains le moyen de changer l'Europe en changeant nos votes.
Alexandre Lacroix, le mot de la fin sera pour vous.
Alors, je dirais qu'il faut prendre conscience du fait que la démocratie est très fragile partout dans le monde, avec Trump aux États-Unis, avec Poutine en Russie, avec Modi en Inde, avec Xi Jinping en Chine, avec Bolsonaro au Brésil, avec Erdogan en Turquie, ça va mal. Alors, en Europe, si vous voulez, la démocratie, c'est une invention européenne, elle est très liée à l'esprit critique, au pluralisme des visions du monde, au fait que nous résistons aux endoctrinements, nous autres Européens, et donc c'est cette flamme démocratique qu'il faudrait sauver contre les populismes de droite, évidemment.
Et voilà le mot de la fin. Merci mille fois à vous, merci à tous les quatre, merci à tous ceux qui nous ont appelés, à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je voulais juste vous rappeler, donc à partir de la semaine prochaine, émission spéciale tous les soirs, 18h-20h, avec à chaque jour un thème concernant l'Europe, il y aura l'agriculture, les frontières, le social, l'environnement, etc. N'oubliez pas non plus, demain soir, 18h, émission spéciale de Guillaume Gallienne, voyage littéraire dans l'imaginaire des cathédrales. Ce sera en public et en direct du studio 104, c'est à 18h, n'oubliez pas.